On va relire les mêmes textes que la semaine dernière et on va aller un petit peu plus loin encore ce matin. Actes chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au verset 8, comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois, arabes, bref, tous les juifs qui avaient été dispersés dans le bassin méditerranéen, qui avec le temps avaient pris la langue et la culture des pays dans lesquels ils se trouvaient et qui montaient à Jérusalem pour la fête. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont entendu une bande d'illettrés, excusez-moi l'expression, qui ont parlé dans leur langue, mais de façon parfaite. Ce qui a amené cette question, comment, verset 11, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Donc ce n'était pas du charabia, ils ne racontaient pas n'importe quoi les gars. Comment les entendons-nous dans nos langues parler des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous, verset 12, dans l'étonnement. Ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, mais que veut dire ceci ? Amen. Et c'est effectivement une question que beaucoup de chrétiens se posent encore aujourd'hui quand ils entendent parler en langue. La semaine dernière, on a parlé un peu plus du pourquoi, du comment, du parler en langue. Aujourd'hui, je voudrais voir les bienfaits du parler en langue. Alors, le parler en langue, qu'est-ce qui se passe quand je parle en langue ? Eh bien, quand tu parles en langue, il ne se passe que des bonnes choses. Parce que c'est riche, c'est puissant, c'est bienfaisant, il y a tellement de bénéfices, autant pour Dieu que pour moi. Alors, les premiers points sont des bénéfices pour le Seigneur. Et ensuite, il y a aussi les bénéfices pour nos propres vies. La première chose que j'ai retenue dans l'Écriture avec vous se trouve dans notre texte de référence. C'est la foule qui l'a dit. Ce ne sont pas les disciples. Ils n'ont pas rendu témoignage d'eux-mêmes, ce sont les autres qui ont dit « Comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu ?» Donc, ils entendaient parler des langues distinctes, mais en plus des choses qui étaient bien plus que cohérentes, des choses qui étaient carrément merveilleuses. Alors effectivement, il n'y a pas toujours, selon la langue que vous parlez, quelqu'un qui peut l'identifier ou vous dire c'est telle langue, telle langue, telle langue. Je ne peux pas donner tous les exemples qu'on trouverait dans nos églises de moments où une personne qui était nouvelle était là, ou une personne qui était de passage, etc., passe, et puis elle entend parler en langue, elle dit « Ah mais ça c'est un araméen parfait, ah mais ça c'est un coréen parfait, ah mais ça c'est... Où est-ce qu'il a appris à parler ça ? Ben nulle part. Celui qui parle en langue, acte 2, 11, parle des merveilles de Dieu. Paul dit en 1 Corinthiens 14, verset 2, là je vous ai mis quelques références pour ceux qui notent. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue parle à Dieu et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il faut comprendre, frères et sœurs, que Dieu est infiniment au-dessus de ce que nos cœurs, même dans la révélation actuelle que l'Esprit accorde par sa grâce, que le Seigneur est infiniment au-dessus de toute intelligence, de toute compréhension, de toute imagination, de toute conception, vous dites amen quand vous voulez, que Dieu est grand, bien plus grand que ce que vous pouvez concevoir, qu'il est infiniment grand et que nous connaissons, comme dit Paul, nous connaissons qu'en partie. Et il y a des choses, frères et sœurs, qui sont inaccessibles à l'intelligence humaine. Vous ne pouvez pas concevoir les grandeurs, les dimensions de Dieu, son éternité, ce qu'il fait, comment il agit, comment il procède, qu'est-ce qui se passe exactement dans le monde spirituel. La Bible nous révèle beaucoup de choses, mais il faut être clair. La Bible nous dit la vérité, mais elle ne nous dit pas tout. Parce que ce n'est pas concevable. J'ai 15 cm cubes de cervelle et je ne peux pas contenir l'immensité du Dieu des cieux dans mes 15 cm de cervelle. C'est inconcevable, c'est beaucoup trop grand. Les merveilles et les mystères profonds de Dieu dépassent notre intelligence naturelle. La personne de Jésus, qui il est, et son œuvre, et sa grandeur, et sa gloire, nous dépassent et dépassent notre capacité de compréhension humaine. Et même quand on saisit la révélation de Jésus avec son cœur, merci Seigneur pour ce que j'ai là, parce que ça me donne le feu pour traverser la vie et aller dans l'éternité. Mais en vérité, je suis tout à fait conscient que les révélations que j'ai là sont rien en comparaison de ce qui m'attend dans le ciel. Et dit Paul, quand nous serons là-bas, nous connaîtrons parfaitement. On a déjà une dimension de révélation, mais on n'a pas tout reçu. Et Paul dit, à ce moment-là, nous connaîtrons Dieu comme nous avons été connus. Mais en attendant, vu que toutes ces dimensions-là, elles me dépassent, qu'elles sont inaccessibles à mon intelligence, à mon cœur, tellement Dieu est infiniment au-delà de tout ce que je peux concevoir ou imaginer, mon intelligence, et même si j'avais l'intelligence, allez, même si j'avais l'intelligence, mes mots humains ne pourraient pas décrire qui est Dieu. Tout ça, ça me dépasse. Et même si j'avais l'intelligence, mes mots ne seraient jamais à la hauteur de ce que Dieu est réellement. Et il faut que ce soit l'Esprit. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut parler des profondeurs de Dieu. Personne ne peut parler de Anne Brion mieux que moi, je la connais. Personne ne peut parler de moi mieux qu'elle. Personne ne peut parler de son mari mieux que l'épouse. C'est vrai, mes sœurs. Hein. Et là, les frères, ils disent... Chut, 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 personne ne peut parler de Dieu mieux que l'Esprit de Dieu. Et il va me faire rentrer dans des dimensions et dans ces langues nouvelles. C'est l'Esprit qui s'exprime et qui parle de ce qu'il connaît, de ce qu'il a déjà sondé. Et il va le faire dans des langues qui, elles, ne vont pas être limitées par les mots, le langage, le vocabulaire. Je vais enfin pouvoir parler de Dieu à la hauteur de ce qu'il est. Waouh ! Et tout ça dans un petit corps, tout ça dans une petite vie qui est un grain de poussière à l'échelle de l'éternité. Du divin et de l'éternel dans un grain de poussière comme moi. Alors je vais enfin pouvoir parler de Dieu, le louer, l'adorer à la hauteur de ce qu'il est. Paul dit aussi, à Corinthiens 14, 17, « Ben oui, tu rends d'excellentes actions de grâce. » Alors c'est très bien, là encore, c'est très bien de le faire dans notre langue. Oui, nous parlons à Dieu, nous le remercions des actions de grâce, nous le remercions pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Nous le louons, nous l'adorons, nous lui donnons nos actions de grâce, nous l'honorons avec mes mots. Quelqu'un a dit tout à l'heure dans sa prière, de toute façon Seigneur, mes mots, ils seront jamais à la hauteur. Mais tu connais mon cœur, et c'est vrai. Et qui n'a jamais eu cette pensée de se dire, alors qu'on n'a pas eu toute la révélation, mais dans nos petites révélations qui déjà nous dépassent, de se dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je pourrais bien dire en vérité pour te remercier à la hauteur de ce que tu as fait ? Parce que ce que Jésus a fait, vous savez, vous allez lui dire merci toute l'éternité. Par rapport à ce qu'il a fait, on est encore en deçà. Donc il faut absolument rentrer dans une dimension supérieure parce que se parler en langue va en vérité dépasser les faiblesses de mon langage et de mon vocabulaire, ça va transcender mon intelligence, transcender mon langage, transcender mes propres révélations. Et puis ça va aussi, quand on est dans le parler en langue, puisque c'est un pur acte de foi, ça va aussi m'affranchir de mes craintes, de mes peurs, de mes états d'âme, de mes humeurs, de mes émotions, de mes impressions qui sont trompeuses. Allez, on loue le Seigneur. Et des fois, l'Église, elle dit, ouais, amen, Seigneur, merci. Et puis des fois, on dit, allez, on loue le Seigneur. Parce qu'on est conditionné par des humeurs, par des impressions, par des émotions. On ressent toutes sortes de choses. Et quand on est dans la dimension du parler en langue, tout ça, ça disparaît. Quand l'Esprit, lui, il loue, et c'est parfait. Quand l'Esprit, lui, il rend grâce, c'est parfait. Quand l'Esprit, il parle de Jésus, c'est parfait. Quand l'Esprit, il parle de Dieu, le Père, c'est parfait. Quand l'Esprit, il adore, c'est parfait. Quand l'Esprit, il intercède, c'est parfait. C'est toujours 100% impeccable. J'espère qu'à la fin, j'aurai quand même réussi à vous donner un petit peu envie de parler en langage. C'est selon Dieu qu'il intercède. Tiens, ça, on va le lire. Vous ouvrez avec moi Romains 8, s'il vous plaît. Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, verset 26, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » C'est un constat, c'est une réalité. Je dois en prendre conscience pour que ça m'amène à soupirer vers une autre dimension. Alors, je ne dis pas qu'il faut jamais prier, que nos prières ne sont pas bonnes ou jamais inspirées. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit, tout est limité humainement parlant. Et Paul ici le reconnaît, bien qu'apôtre Paul, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, oui, parce qu'on a de la faiblesse, car nous ne savons pas en vérité ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais, béni soit Dieu, l'Esprit lui-même intercède jusqu'à même pousser des soupirs inexprimables. » Jusqu'à des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Autant je me suis trouvé maintes fois confronté à mes limites humaines et à mes limites de langage et de vocabulaire pour exprimer la grandeur de Dieu, autant je me suis trouvé, vous aussi, limité dans des moments de prière, dans des temps de prière, que ce soit chez moi à la maison ou ici, où on m'a dit « on va prier pour un tel hein. ». Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir demander au Seigneur pour elle? Surtout pour elle. Bon, sujet suivant, le frère Intel. Ah oui, le frère Intel, ça vaut peut-être la peine. Bon, bénis-le, exauce, merci Seigneur, donne, fais-lui grâce, guéris, agis, bénis, donne, exauce, agis, bénis, exauce, donne, agis, bénis, exauce. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'il y a des moments, vous l'avez ressenti, on se trouve extrêmement limité. Et en vérité, des fois on a dit « bénis-le Seigneur », mais parce qu'on ne savait pas quoi dire. C'est ça la vérité. Et c'est normal, l'apôtre Paul le dit, dans notre faiblesse. Mais l'Esprit, lui, il sait, il connaît, il sonde. Et l'Esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède. C'est-à-dire que lorsque je parle en langue, je rends d'excellentes actions de grâce. C'est en esprit que je dis des merveilles de Dieu, que je dis des mystères. J'ai une louange parfaite, une adoration parfaite. J'ai aussi une intercession parfaite parce que je peux prier, je peux intercéder en pleine harmonie avec la volonté de Dieu. Et quand je prie en langue, eh ben, je ne suis jamais à côté de la plaque. Je ne demande jamais à côté. Parce que des fois, on dit « Ah Seigneur, bénis-le » Ben oui, bien sûr, on veut qu'il soit béni. Mais son plus grand besoin, c'est peut-être pas d'être béni, c'est peut-être de se repentir. Et tu n'as pas connaissance de la situation. Mais l'Esprit, il sait. Et pendant que tu es en train de parler en langue, tu es peut-être en train de prier pour un vrai sujet dont personne n'a connaissance, même pas le pasteur. Mais l'Esprit, il sait. Il sonde les cœurs. Et il sait ce qu'il faut demander. Et lui, il ne se trompe pas. Ah, ça vaut le coup, hein ? Ah, je vais vous donner envie d'être des vrais pentecôtistes, c'est fantastique. Ensuite, il y a cet aspect que j'aime énormément, là qui va beaucoup plus me concerner moi, et c'est cette toute petite parole de Paul, oh j'ai pas mis 1 Corinthiens, mais vous avez compris, hein. Ici 14.4 c'est 1 Corinthiens 14.4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot édifier qui est employé ici, on sait ce que c'est qu'un édifice, c'est vraiment la pensée d'une construction. Paul est en train de dire, celui qui parle en langue bâtit sa maison brique après brique. Brique par brique. Je construis, je bâtis, pas une maison physique. Je suis en train de bâtir mon être intérieur. Ma vie intérieure est un édifice spirituel. Prenez l'image d'une maison, c'est une construction qui doit avoir de solides fondations. Et ensuite, sur ces fondations solides, il faut construire, ranger après ranger. Il faut que ma vie intérieure se construise, il faut qu'elle se développe. Je dois être construit intérieurement, je dois être construit dans ma psychologie, je dois être construit dans mon psychisme, je dois être construit dans mes sentiments, dans mes émotions, je dois être construit dans mes relations. J'ai besoin de savoir qui je suis en Dieu et tout ça, ça doit être construit. Et ça, on le fait comment? Avec 5 ans de psychanalyse pastorale? Avec 50 ans de cure d'âme? Non? On le fait quand on est rempli du Saint-Esprit, qu'on parle en langue. Je me construis moi-même. La pensée, c'est aussi que je peux à cause du combat spirituel, je ne vais pas seulement me construire, je vais aussi me reconstruire. Je vais aussi rebâtir. Vous savez très bien que dans la vie avec Dieu, nous ne sommes pas sur un petit bateau, dans un fleuve, un long fleuve tranquille. Vous savez qu'il y a des coups, vous savez qu'il y a des chocs, vous savez qu'il y a des échecs, vous savez qu'il y a des injustices, vous savez qu'il y a des blessures, vous savez qu'il y a vos propres failles, vos propres fautes, vos propres péchés. Et si je prends l'image de cette construction qu'est ma vie intérieure avec Dieu, les coups, les injustices, ce que les autres m'ont fait, les blessures, c'est comme si on mettait des coups dans mes murailles, dans mes murailles intérieures. Et vous avez une situation familiale, bam, ça vous a mis un coup, et vous imaginez, il y a une partie de votre muraille qui s'est effritée, il y a une brèche, il y a une partie qui est tombée. Et puis sur un autre côté, un jour, vous avez été défaillant, vous avez péché, parce que ça arrive. Jacques le dit, on pêche tous, on bronche tous. Et parce qu'à un moment, vous avez péché, oui, vous avez demandé pardon à Dieu, oui, il vous a pardonné, oui, tout est effacé, oui, tout est oublié. Mais en attendant, il faut comprendre que le péché, ça fait des gros dégâts dans mon être intérieur, et que même si je suis pardonné, derrière il faut reconstruire. Et la pensée de Paul, c'est pas seulement de se construire, mais lorsque quelqu'un, par une blessure, par une injustice, moi par mes fautes, mes manquements, mes négligences, mon insouciance ou mes péchés, il y a eu des chocs sur mes murailles, et il y a des parties de mon être intérieur qui se sont littéralement effritées, je me tiens devant Dieu, je parle en langue, et le Saint-Esprit m'assure, Paul me dit, quand tu parles en langue, tu te construis et tu reconstruis toi-même les parties de ta vie. Tu reconstruis ton être intérieur. Et tu fais ça tout seul avec le Saint-Esprit. Bon, ça fait pas mal de bienfaits déjà. Ensuite, pratiquer le parler en langue, il va falloir le pratiquer abondamment. Nous sommes appelés à vivre une Pentecôte personnelle, quotidienne, progressive, parce que nous n'avons pas tout vécu avec le Saint-Esprit le premier jour, et il faut vraiment que notre Pentecôte soit quotidienne, constante, même progressive, parce que nous sommes appelés à nous développer et à progresser dans le parler en langue. J'insiste aussi sur le fait que Jésus a toujours parlé des langues au pluriel, langues étant toujours mis au pluriel dans les textes où il en est question. Malheureusement, on assiste bien souvent, ce n'est pas méchant ce que je vais dire, mais on assiste beaucoup plus souvent dans le domaine de la vie de l'esprit, on assiste beaucoup plus souvent à un déclin qu'à une progression. On est beaucoup plus souvent en perte de vitesse qu'en progrès constant. On a beaucoup plus souvent, non pas perdu, on a laissé tomber. Des fois on dit « Ah, je suis désolé, j'ai perdu le parler en langue ». Non, non, tu n'as rien perdu du tout. Tu t'en es pas occupé, tu l'as laissé tomber. J'ai perdu mes clés. Mais la foi, je ne peux pas la perdre. Le parler en langue, je ne peux pas le perdre. La vie de l'esprit, je ne peux pas la perdre. Si je l'ai pu, pardon, hein, c'est parce que je ne m'en suis pas occupé. Et je suis appelé pour avoir cette Pentecôte qui soit quotidienne et qui soit même progressive, je suis appelé à pratiquer ce parler en langue et à le pratiquer abondamment. Et Paul dit en 1 Corinthiens 14, il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je désire que vous parliez tous en langue. » Lorsque je parle en langue, je vais vous donner d'autres images. Puisque l'esprit est comparé à un fleuve, des fleuves, puisqu'il est comparé à du feu, puisqu'il est comparé au vent, puisqu'il est comparé à l'huile, quand je parle en langue, je permets au fleuve au pluriel, je permets au fleuve de couler. Des fleuves couleront de son sein. Concrètement, ça veut dire quoi? Je fais quoi pour que le fleuve coule et que mon être intérieur soit irrigué et jamais desséché? Je fais quoi? Celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront. Je fais quoi? Parler en langue. Quand je parle abondamment en langue, ce fleuve, ces fleuves que constitue l'Esprit de Dieu en moi, peuvent couler et peuvent couler abondamment et m'irriguer et jaillir aussi sur les autres, puisque Jésus a promis des répercussions jusque dans la vie éternelle. Si on prend l'image du feu, lorsque je parle en langue, je mets du bois dans la cheminée. Okay ? pour que le feu ne s'éteigne pas. Et pourquoi le feu s'éteint ? Parce que le feu, on ne s'en est pas occupé, parce qu'on n'a pas mis de bois. Et chaque fois que vous entretenez pas le feu dans votre cheminée, qu'est-ce qui se passe ? Il s'éteint, puis un jour, il reste juste des cendres fumantes. Il faut absolument, par la pratique du parler en langue, entretenir le feu que Dieu a mis en nous, dans nos cœurs. Lorsque je parle en langue, cette huile bienfaisante de l'esprit, cette huile qui va passer dans les moindres recoins de mon cœur, là où j'ai jamais ouvert des parties de mon cœur, là où il y a des choses de mon enfance, écoutez-moi bien, des choses de mon enfance, des choses de mon passé, des choses qui ne sont pas guéries, des choses qui ne sont pas cicatrisées, des choses que j'ose même pas dire à mon conjoint, des choses que je ne veux pas dire à mon pasteur, parce que j'ai peur du regard, parce que j'ai peur qu'on me juge, parce que je n'ai pas ouvert et je ne peux pas, il y a certains aspects de mon âme où personne n'a accès. Et quand je parle en langue, l'Esprit de Dieu, cette huile qu'est l'Esprit, coule dans mon être intérieur et elle va imprégné de la personne du Saint-Esprit qui est une personne de guérison et de consolation. Et quand je parle abondamment en langue, et bien tout simplement, l'huile est en train de faire son œuvre bienfaisante de guérison, de douceur, de consolation, d'apaisement. Et mon cœur, mon être intérieur est imbibé par cette huile de l'Esprit. Et il y a des blessures que vous n'avez jamais dit à personne, mais que le Saint-Esprit, lui, il connaît qu'il va guérir. Mais il faut lui laisser le temps de le faire. Il faut laisser le temps à l'huile de couler et d'envahir toutes les parties de votre être. Si je prends l'image du vent, le souffle, le roi dans l'Ancien Testament, le pneuma dans le Nouveau, le souffle, le vent, de la même façon qu'il faut ouvrir les portes et les fenêtres de votre maison et qu'il faut aérer, parce que l'air, ça va enlever les moisissures, ça va enlever les mauvaises odeurs, ça va renouveler l'air. On fera tout un message sur le vent, l'huile, etc. Mais vous regardez le vent, c'est extraordinaire tout ce que le vent fait à la surface de la planète. S'il n'y a pas de vent, la planète est morte. Et le vent est puissant, le vent, il oxygène, il renouvelle. Et quand je dis, ah Seigneur, je voudrais t'ouvrir mon cœur. Concrètement, ça veut dire quoi ? Moi, j'aime bien être concret. Ben, quand je parle en langue, je suis en train d'ouvrir mon cœur, je suis en train d'ouvrir les portes, les fenêtres de mon cœur, et le vent de l'esprit commence à pénétrer, s'engouffrer de plus en plus, et il va purifier les parties de mon cœur, il va renouveler l'air, il va oxygéner, de façon à ce que... Ah, je respire. Ben, quand je parle abondamment en langue, je laisse l'Esprit de Dieu couler au travers de moi, je laisse l'huile couler, je laisse le fleuve couler, je laisse le feu brûler et je laisse le vent, le souffle oxygéner toutes les parties de mon être intérieur. Je voudrais être très 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 pratique, très pragmatique et essayer de répondre au mieux aux questions, aux interrogations, aux difficultés que les uns ou les autres peuvent rencontrer et qui font qu'ils se sont laissés arrêter dans le parler en langue. La difficulté du parler en langue, oui, il y en a une. Elle n'est pas technique. Mon intelligence, ma raison humaine va s'opposer à cet acte de foi, à ce miraculeux, parce que mon âme, comme mon intelligence, sait qu'à ce moment-là, elle perd le contrôle, elle n'a rien à voir dans cette histoire-là. Elle est obligée de se soumettre à l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, quand je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est-à-dire, à ce moment-là, votre intelligence, elle ne sert pas. Ce n'est pas avec l'intelligence que ça se fait. Ça se fait juste dans un acte de foi. Alors, le parler en langue, il faut bien comprendre. Jésus a dit, celui qui croit, acte de foi, des fleuves couleront de son sein, de son être intérieur, jusque dans la vie éternelle. Le parler en langue, il ne sort pas de ma tête. Ah, la nature humaine qui veut toujours avoir le volant de la voiture, je veux gérer, je veux contrôler, je veux comprendre, je suis rationnel, je suis cartésien, je suis... Attends, quand on prie au nom de Jésus pour que tu sois guéri, t'y crois, hein, ça ne te pose pas de problème. Mais quand il s'agit de parler en langue, ah non, moi vous savez, je suis trop pragmatique. C'est le miracle de Dieu, c'est exactement la même chose, c'est pareil. Et là, quand je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Parce que ça vient de mon être intérieur, ça ne vient pas de ma tête. C'est une source qui se libère de l'être intérieur. Et en même temps, c'est problématique, mais c'est rassurant. Moi, je vous l'ai dit, je suis resté 18 ans non baptisé dans le Saint-Esprit parce que j'en avais une peur bleue. Donc je comprends les gens qui sont réticents. Pendant 18 ans, j'en avais peur, il ne fallait pas m'en parler. J'avais peur de perdre le contrôle, j'avais peur d'être, excusez-moi l'expression, hein, des fois on se dit, mais est-ce qu'on n'est pas un peu en transe ? Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que le jour où le Saint-Esprit m'a simplement visité, j'étais dans une nuit, j'étais désespéré de la présence de Dieu, j'avais désespérément soif de lui, j'étais au pied de ma banquette, il était peut-être 1h ou 2h du matin, je ne sais plus, c'était la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2006, j'étais au pied de ma banquette, et à ce moment-là, je n'ai pas eu un frisson, je n'ai pas ressenti un truc spécial, je n'ai pas eu d'excitation, il ne s'est rien passé, je n'ai même pas senti la présence de Dieu plus que ça, j'ai juste senti, en réponse à ma prière, j'ai senti une douce pression juste là à l'intérieur. Et je sentais qu'il y avait un truc qui devait se libérer. Il y avait de l'eau qui devait couler. Je devais parler. Et dans un acte de foi, j'ai obéi. Et les syllabes qui résonnaient là dans mon être intérieur, je les ai prononcées. Et mes 4 syllabes en sont devenues 8. Les 8, 16, 16, 32, 32, 64, ainsi de suite. Une langue est devenue 2 langues, 2 langues, 3 langues, 4 langues, 5 langues, 6 langues. 2 heures, 3 heures après, le lendemain, j'y étais encore. Et je bénissais Dieu. Et puis les fleuves, ben, c'est le principe d'un fleuve. Hein. Il coule. Et tant que tu laisses le fleuve couler, ben, il ne va pas s'arrêter. Le fleuve, c'est nous qui l'arrêtons. Ce n'est pas le fleuve qui s'arrête. C'est nous qui arrêtons le fleuve. Alors pourquoi je vous dis ça? Je veux vraiment vous rassurer. On n'est pas en transe. J'étais au pied de ma banquette et à un moment, j'entendais Anne à l'étage qui s'était levée et qui descend. Je l'entends là-bas, elle descend l'escalier et je savais qu'elle venait vers moi. Et puis quand elle est arrivée vers moi, elle a mis sa main sur mon épaule et elle a dit « Chérie, on est vraiment content pour toi, mais nous, on voudrait dormir, hein, merci. Hein. » Je dis « Oh pardon chérie, désolé. » Alors après, je suis allé m'enfermer dans la cuisine ou dans la salle de bain. Puis dans la salle de bain, j'ai continué à parler en langue. Et en moi, j'étais content. Parce que je me suis dit, Seigneur, c'est vrai, c'est super génial, parce que ça vient de mon être intérieur. Et mon intelligence n'était pas accaparée. Mon intelligence n'était pas, j'étais pas en transe. C'est-à-dire que j'étais parfaitement conscient de tout ce qui se passait autour de moi. J'avais conscience que j'étais la nuit, j'avais conscience du jour qu'on était, j'avais conscience que ma femme se levait, j'avais conscience qu'elle venait me voir, j'avais confiance, et j'avais conscience de tout ça. Et j'ai dit, ah, c'est super Seigneur, mon intelligence reste totalement disponible. C'était pour moi, franchement, une bonne nouvelle, et j'étais hyper rassuré de me dire que j'allais pas être, vous savez, vas-y, continue, non Seigneur, je voudrais aller me coucher, non, continue, c'est moi le patron, c'est moi qui décide, vas-y, parle en langue, tant que t'as pas fini, tu t'arrêtes pas, c'est moi qui décide, bon d'accord Seigneur. Je suis du coup parfaitement coopératif avec l'Esprit de Dieu, je suis coopératif avec lui, c'est lui qui s'exprime, mais en même temps c'est moi qui parle, il y a de l'eau dans les tuyaux. Vous savez, chez vous, dans vos maisons, dans vos cuisines, il y a de l'eau dans les tuyaux. Il y en a toujours de l'eau. Il y a toujours de l'eau dans les tuyaux. Il y a toujours de l'eau à l'intérieur. Mais c'est vous qui ouvrez le robinet. Et si vous laissez le robinet ouvert, ben l'eau, elle coule. Et cette nuit-là, le Seigneur, il m'a dit, maintenant, ouvre le robinet. Ben, j'ai ouvert le robinet et puis j'ai parlé en langue. Et ça fait 12 ans et je ne m'arrête pas et je bénis Dieu. Une source qui se libère de l'intérieur, mais qui fait que mon intelligence va demeurer stérile. Et c'est ça la difficulté, parce que je vais être obligé de dire à mon âme et à ma raison, à mon intellect, qui veulent toujours tout contrôler, de leur dire, tiens-toi tranquille, non, c'est normal, sur ce coup-là, c'est normal, t'arrêtes, tu ne maîtrises pas, tu ne maîtrises rien, non, tu ne te mêles pas de ce qui ne te regarde pas, tu ne te mêles pas de choses, mon intellect et mon âme ne doivent pas se mêler de choses qui les dépassent et qui sont beaucoup trop grandes pour elles. C'est justement, même, j'insiste sur ce point, c'est justement parce que je ne mêle pas mon intelligence avec ses limites, ses faiblesses, ses incompréhensions et ses raisonnements, c'est justement parce que je ne mêle pas mon intelligence au parler en langue qu'il est efficace. En d'autres termes, je vous l'ai dit la semaine dernière, le seul moment où vous êtes sûr de ne pas dire de bêtises, c'est quand vous parlez en langue. C'est comme si dans un acte de foi, dans un abandon total, une collaboration. Je suis en une collaboration sans précédent avec le Saint-Esprit, en accord avec lui. C'est comme si je disais à mon intelligence, s'il te plaît, t'es gentil, pousse-toi, tu gênes, tu déranges, tu nous empêches de faire notre boulot. Vous avez jamais, quand vous travaillez, mes frères, vous avez jamais, alors que vous étiez en train de travailler, eu soit vos enfants ou votre femme, excusez-moi mes sœurs, hein, vous avez eu votre femme dans les pattes, qui voulait vous aider, qui voulait vous donner un coup de main, ou mes sœurs, quand vous étiez à la cuisine, vous aviez votre mari qui était là au milieu de la cuisine, qui tourne en ongles, qu'est-ce que tu fais chérie, tu sais pas faire ça, va t'asseoir, ça te dépasse, le bœuf bourguignon, tu sais pas chérie, alors si tu veux m'aider, mets la table, mais va t'asseoir, puis votre mari il est là, il traîne au milieu, et... Eh bien, c'est la même chose quand je parle en langue. Le problème, c'est que mon intelligence, elle ne sert à rien. Elle est larguée, elle traîne. Et c'est comme si je disais à mon intelligence, à ce moment-là, c'est un acte de foi. J'accepte de discipliner mon intelligence et mon âme. Je dis à mon intelligence, non mais s'il te plaît, pousse-toi, tu gênes, tu ralentis l'œuvre de Dieu, tu ne comprends rien, l'œuvre de Dieu, elle te dépasse, c'est trop grand pour toi, ce n'est pas à ta portée. Alors s'il te plaît, tu es gentil, tu te mets de côté et tu nous laisses travailler l'Esprit de Dieu et moi. Ok ? Un autre argument, deux objections pour mon intellect, et je termine avec ça. Beaucoup de chrétiens ne rentrent pas dans cette dimension du parler en langue, ou malheureusement se laisse très très vite arrêter par le diable. Avec certaines réflexions, et il y en a deux qui me sont venues cette semaine que je vous partage, la première chose que j'entends souvent, c'est quand des gens me disent « Ah oui, mais je ne comprends pas ce que je dis. » Tu ne comprends pas ce que tu dis ? Ah mince ! Ah mais le Seigneur, il s'est trompé, il a oublié de te donner l'interprétation. Ah le Seigneur, il faut l'excuser des fois, voilà. Sans blague, tu ne comprends pas ce que tu dis. Non mais c'est exprès, c'est pour que tu ne te mêles pas de ce qui ne te regarde pas. C'est pour que tu ne te mêles pas de ce qui te dépasse. Je ne comprends pas ce que je dis, mais oui, mais c'est évident. Parce qu'il ne faut pas que tu te mêles de ça, c'est un acte de foi. Donc, l'avantage du parler en langue où je ne comprends rien, c'est qu'il ne peut pas être tordu, il ne peut pas être entaché, il ne peut pas y avoir de distorsion, il n'est pas corrompu par une pensée humaine, une parole qui vient de moi. C'est 100% l'esprit, c'est 100% son exclusivité, c'est 100% efficace. Et là, désolé, tu ne touches pas, tu ne mets pas ton grain de sel. Et ne pas comprendre ce que l'on dit, c'est normal, c'est justement ce qui fait du parler en langue une puissance 100% efficace, incisive, redoutable, puissante, dans tous les domaines qu'on a vus ensemble. Vous savez, frères et sœurs, je vous l'ai dit, je le redis avec beaucoup d'amour, le diable n'a pas peur des gens qui vont dans les églises évangéliques. Du moment que vous restez faible, petit, vulnérable et pas rempli, c'est pas un problème pour lui. Il sait très bien que vous n'êtes pas dangereux. Par contre, si vous commencez à être authentiquement rempli du Saint-Esprit et que vous commencez à rentrer dans ces dimensions-là, le diable a peur des gens qui parlent en langue, c'est extrêmement dangereux pour lui parce que l'Esprit de Dieu, il le discerne là où il faut le discerner et il va, excusez-moi l'expression, il va lui mettre le compte, il va lui porter des coups terribles parce que le diable à ce moment-là, quand je parle en langue, il n'a pas affaire à l'intelligence, à l'expérience ou au ministère pastoral de Stéphane Brion. Non, il a affaire juste au Saint-Esprit. Et là, il est très très mal. Et c'est pour ça qu'il a peur des gens qui parlent en langue, parce qu'il a affaire à la toute-puissance de l'Esprit, toute sa connaissance, tout son discernement, toute son autorité, et il cherche à dissuader malheureusement les chrétiens s'arrêter de parler en langue. « Ah, mais tu ne comprends pas ce que tu dis. Arrête-toi, ça ne sert à rien. Si tu ne comprends pas, c'est que forcément, ça doit servir à rien. Ah, mais tu répètes toujours les mêmes choses. Alors arrête, ça ne sert à rien. » Des chrétiens me disent souvent « Mais je ne comprends pas, je répète toujours les mêmes choses. » Alors, très rapidement, première chose, frères et sœurs, il ne faut jamais juger le parler en langue à l'apparence. Nous avons une oreille, une langue occidentale. Vous avez dans le monde des centaines, pour ne pas dire même des milliers de langues si on compte les dialectes. Et par conséquent, frères et sœurs, vous ne pouvez pas juger le parler en langue à son apparence, parce qu'il y a... dans certaines langues, des accents toniques, des accents dynamiques. On peut répéter un même mot, mais si vous mettez l'accent sur la première syllabe ou sur la dernière syllabe, le mot n'a plus la même signification. Okay ? Et par conséquent, si je vous dis « je suis heureux d'être avec vous », voilà, vous avez compris. Si je vous dis « je suis heureux d'être avec vous », c'est pareil. Mais dans certaines langues, selon où vous mettez les accents dynamiques, tout change. Et ça, et des fois, on dit « Oh, je dis toujours la même chose ». Non, c'est que mon oreille n'est pas exercée à ce genre de langue avec toutes ces nuances, toutes ces petites subtilités. Et moi, je suis là, je dis « Ah, je répète toujours la même chose ». Non, tu ne répètes pas toujours la même chose. C'est juste qu'il y a certaines langues qui ont des accents toniques, dynamiques. Il y a des milliers de langues et il ne faut jamais, frères et sœurs, il ne faut jamais juger le parler en langue à son apparence sonore. Deuxième chose, et je vais terminer sur ce point problématique de beaucoup de chrétiens. Oui, mais je répète toujours les mêmes choses. Il y a des moments... Si on répète toujours les mêmes choses, ça peut arriver, c'est parce qu'on a arrêté l'apprentissage. Lorsque vous étiez enfant, vous n'êtes pas sorti du ventre de votre mère en disant « Mon très cher père, je te serais tellement infiniment reconnaissant si cela ne te désagrait point, n'est-ce pas, de me changer parce que j'ai extrêmement faim et de faire le biberon de lait un petit peu moins chaud, je t'en serais gré, merci. » Quand vous êtes sorti du ventre de votre mère, les paroles, ce n'était pas terrible, terrible. Vous avez appris à vous asseoir, vous avez appris à marcher et vous avez appris à parler. Et quand vous parliez, alors que vos parents étaient émerveillés devant vous, de dire « Oh, mais qu'est-ce qui parle bien, ce petit ?»« Ah non, gâteau, papa, maman. » Et nous, on était là, on disait, ah oh, mais ce petit, mais il parle, oh mais t'as vu comment il parle pour 18 mois? Non, mais si je dis gâteau à 18 mois, c'est normal, hein, bah non plus. Et nous, on était émerveillés devant nos enfants qui disaient papa, maman, gâteau. Alors, je ne dis pas que dans le parler en langue, c'est forcément papa, maman, gâteau, vous avez compris. Je dis simplement qu'on a tous une expérience différente. Et quand le Saint-Esprit commence à nous communiquer des langues, l'acte de foi est permanent. Jésus dit à celui qui croit, littéralement à celui qui croit en permanence. C'est un présent continu. Celui qui croit, pas une fois, celui qui croit en permanence. Des fleuves couleront. Et parce que je suis dans la foi en permanence et parce que je prends à cœur la question du parler en langue, lorsqu'il y a quelques syllabes qui m'ont été données le jour du baptême dans le Saint-Esprit, je ne vais pas tout de suite juger. Oh, papa, maman, gâteau, c'est nul. Je parle plus. Non, je vais dire, Seigneur, ce que tu m'as donné, merci, je vais le pratiquer. Et si tu le pratiques, mais forcément ton langage spirituel va se développer au même titre qu'un jour ton langage français humain s'est développé. Donc, oui, pardon, je ne veux pas être méchant, mais il y a des moments, si on répète toujours les mêmes choses, frères et sœurs, c'est parce qu'on a négligé. On ne s'en occupe pas, on n'a pas développé. Si vous prenez un enfant qui vous dit « papa, maman, gâteau, merci, tata, tonton » et que vous lui fermez le bec et qu'il ne parle plus, je vous garantis, s'il rouvre la bouche dans 20 ans, il va être grand, ça va être un homme. Hein. Mais pendant 20 ans, il ne parle pas, il va dire « papa, maman, gâteau, tonton, tata » vous dire « mais qu'est-ce qu'il a ce gamin ?» Mais il n'a rien de plus qu'un autre. Le problème, c'est que pendant 20 ans, on l'a muselé. Donc il n'y a pas d'exercice. Dans la vie spirituelle, frères et sœurs, c'est simple, c'est pareil. Ce que le Seigneur me donne, je le pratique. Et en pratiquant, c'est comme ça que ça se développe, parce que c'est en forgeant qu'on devient. Et donc c'est en parlant en langue qu'on apprend à parler en langue. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je réponds à une autre question qu'on me pose régulièrement. Oui, mais est-ce qu'on a le droit de parler en langue dans l'Église ? Parce que l'apôtre Paul a dit « Oui, je parle en langue plus que vous tous, mais lorsque je suis dans l'église, je préfère dire 5 mots avec mon intelligence, etc. etc. » Oui, vous pouvez parler en langue dans l'église et le faire abondamment. Malheureusement, ce n'est pas méchant ce que je veux dire, beaucoup de pasteurs ont coupé ou ont tué la vie de l'esprit dans les églises, désolé, simplement parce qu'ils n'ont pas compris le contexte des Corinthiens. Les Corinthiens ne sont pas des gens qui parlent en langue dans l'Église et qu'on a arrêté parce qu'ils parlaient en langue dans l'Église. Les Corinthiens sont des gens qui sont partis dans un degré d'excitation, de dérive et de dérèglement au point que l'apôtre Paul dit « Mais attendez, s'il y a des gens qui rentrent, ils vont dire que vous êtes fous. » Parce que ce n'est pas des gens qui sont en train de pratiquer dans le calme, la sérénité, dans la foi, en train de pratiquer le parler en langue. Ce sont des gens qui ont pris le balancier, qui l'ont poussé à une extrême, au point que, dans les Corinthiens, il n'y avait peut-être même plus de chant. Il n'y avait peut-être même plus de prédication. Il n'y avait plus de place pour l'intelligible. Il n'y avait plus de place pour la prédication de la parole. Les Corinthiens, ils arrivaient, ils avaient effectivement saisi les dons spirituels, la vie de l'esprit, etc. Mais malheureusement, ils avaient oublié d'autres choses, comme je vous l'ai dit en tout début de série. Jamais l'esprit sans la parole. Jamais la parole sans l'esprit. Et eux, ils ont, sous prétexte qu'ils parlaient en langue, ils ont tout viré. Mais même la sanctification, hein, puisque Paul dit, mais c'est hallucinant, il y en a un au milieu de vous, il a la femme de son père. Et en fait, ces Corinthiens, ils arrivaient dans le culte, je vous donne une image, je vous paraphrase, les Corinthiens, ils arrivaient dans le culte et ils commençaient non pas à parler en langue, mais à brailler, à hurler en langue, et tout le monde, blabla, celui qui allait le plus fort. Et puis il y avait 5, 10, 15, 20, et tout le monde y allait de sa pensée, tout le monde y allait de sa prophétie. Il y avait une espèce d'excitation et d'euphorie générale qui était devenue complètement, complètement délirante. Et un certain pasteur, quand ils se sont dit « Oh, il ne faut pas qu'on devienne comme les Corinthiens, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter de parler en langue parce que ça me gêne, parlerai chez vous. » Et malheureusement, en même temps, ce n'est pas demain la veille que ça va être le bazar dans l'église de Manosque. Hein, excusez-moi. Avant que ce soit le bazar, excusez-moi. Donc, le but de l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens, ce n'est pas de couper ou d'arrêter le parler en langue dans l'église, c'est de ramener des gens qui étaient partis dans une dérive, dans une excitation et dans une euphorie qui était extrême et qui était devenue extrêmement malsaine. Donc l'apôtre Paul ramène tout par la parole et 1 Corinthiens 13 qui est l'amour, il ramène le balancier dans un juste équilibre. Maintenant, frères et sœurs, est-ce que vous pouvez parler en langue dans l'église ? Oui, absolument, il faut absolument le faire. Pardonnez-moi, dans les cultes ou dans les réunions de prière, il y a des moments, j'ai l'impression qu'on joue au roi du silence. On est là, on se demande lequel va le premier oser élever sa voix, et puis une fois qu'on a entendu un qui prie, deux qui prient, ah oui, c'est intéressant ce qu'elle dit là, ah oui, amen. Ah oui. Ah, par contre, lui, ce qu'il dit, c'est pas intéressant, bon... Ah ouais, c'est vrai, mince, j'ai oublié, demain j'ai rendez-vous chez le dentiste, j'ai pas prévenu, il faut absolument que j'ai... Et paf, et ça y est, c'est parti. Je vous le tourne ainsi, frères et sœurs. Quand je ne parle pas en français, quand je ne prie pas en français, systématiquement je prie en langue. Je prie en langue systématiquement. Parce que si j'ai des pensées, si je sais comment prier, louer, intercéder, je le fais. Et quand je sens que je vais tomber soit dans la panne sèche, soit dans l'endormissement, je laisse le relais à l'esprit et je me mets à parler en langue. Je ne braille pas, je ne hurle pas, je ne fais pas une démonstration de parler en langue, je ne suis pas là pour impressionner tout le monde, mais là, à ma place, pour éviter l'endormissement et pour éviter la panne sèche dans la réunion de prière ou dans la louange, je commence à parler en langue. Et au fur et à mesure que je parle en langue, il y a d'autres pensées qui montent dans mon cœur, il y a d'autres sujets qui montent dans mon cœur, il y a d'autres louanges. Et une fois que je reloue Dieu et je peux intercéder, je peux prier pour les saints, pour les frères, les sœurs, les inconvertis, et je le fais, et puis à un moment, je me mets de nouveau à parler en langue pour éviter l'endormissement, pour éviter la panne sèche, parce que je ne sais pas ce qui est convenable de demander, parce que je ne sais plus ce qu'il faut dire ou demander, Seigneur, mais je me mets à parler en langue et l'Esprit Saint, il le fait. Alors, frères et sœurs, vous qui êtes baptisés dans le Saint-Esprit, dans les réunions, je vous en supplie, oui, parlez en langue, parlez abondamment en langue, parlez beaucoup en langue. Vous le faites là, à voix normale, là où vous êtes à votre place. Vous le faites normalement, vous le faites abondamment. Et quand on entend des frères et sœurs qui prient, qui louent en français, qui parlent en langue, c'est pas du bazar, c'est juste le bruit de l'eau qui coule. Et c'est normal que dans le temps de louange, ou que dans les réunions de prière, on entende le bruit de l'eau qui coule. Soyez continuellement rempli de l'Esprit. On est appelé, frères et sœurs, à vivre une vie continuellement remplie du Saint-Esprit. et pour être rempli de ses fleuves, rempli de sa force, rempli de ses révélations, rempli de sa hardiesse, rempli de son huile, rempli de sa consolation, rempli de sa personne, rempli de ses œuvres, j'ai besoin de céder le membre le plus puissant et le plus indomptable de la nature humaine, de mon corps. J'ai besoin de le céder au Seigneur dans un acte de foi et de dire « Seigneur, fais ton œuvre ». Je vais parler ce que tu vas me donner, je vais le prendre à cœur, je vais arrêter d'être négligent, je vais arrêter de rationaliser, je vais le prendre à cœur, tu vas m'aider à le développer, Seigneur, et puis il va se passer des choses merveilleuses dans le monde spirituel et aussi dans mon être intérieur. Et Dieu veut que vous soyez tous continuellement remplis du Saint-Esprit. Amen.